Merci Anthony d'être venu pour nous présenter ton expérience.
Avec plaisir. Donc moi c'est Anthony Brouard, je fais partie de l'association AIDE. Et l'objet de mon propos qu'on m'a demandé, c'est de voir avec vous comment on peut, avec l'expérience de AIDE dans le dépistage communautaire, de voir comment on peut développer des actions de santé communautaire dans les cas rudes, à partir de quelles opportunités on a pu mettre ça en place, et puis en fonction des résultats qu'on a pu obtenir via une enquête, une recherche biomédicale en partenariat avec l'ANRS, de voir un peu quelles perspectives ça nous a ouvert aujourd'hui, et puis voir une perspective à plus long terme. Alors, juste rapidement, mon propos va être très rapide, parce qu'on m'a dit que j'ai à peu près 10 minutes. Faire un petit retour sur AIDE et puis l'animation des CARUD, donc établissements médico-social, donc qui sont des centres d'aide et d'accompagnement à la réduction des risques auprès d'usagers de drogue. C'est l'antériorité de l'action dans le champ de la réduction des risques et par l'approche de AIDE qu'on a pu mobiliser de manière importante les usagers de drogue en leur permettant d'élaborer leur propre stratégie de prévention. Et c'est vraiment cette mixité d'expériences qu'on a voulu maintenir en s'engageant dans l'animation d'établissements médico-sociaux qui étaient nouveaux pour nous. C'était la première fois qu'on allait se lancer dans la gestion d'établissements très encadrés réglementairement et qui n'était pas notre façon de faire initiale. Et du coup, c'était de pouvoir de maintenir cette dynamique-là, de mobilisation des personnes et profiter en tout cas de notre démarche de santé communautaire, d'être fidèle à nos principes d'action qui est de favoriser la démarche de santé communautaire, de continuer en tout cas à mobiliser les consommateurs de produits dans ces établissements médico-sociaux. Alors, les CARUD, nous, on les a construits, ils sont basés pour nous sur les principes de santé communautaire. Alors, j'en ai cité deux qui disent que, en tout cas pour nous, la réduction des risques vise une plus grande implication des personnes dans les actions et les programmes qui les concernent. C'est vraiment, au-delà de faire pour, c'est vraiment faire avec les personnes. On les associe à la fois dans c'est la réflexion autour de leurs besoins, c'est quoi les solutions qu'ils ont envie de construire avec nous, et voir aussi comment on pérennise certaines actions et comment on fait évoluer en tout cas les réponses à leurs besoins. Et de l'autre postulat aussi, c'était de dire que la réduction des risques constitue aussi une démarche de soins. Et ça, c'était intéressant, en tout cas, à bien poser. Pour nous, les CARUD, bien qu'établissement médico-social, donc comme je disais tout à l'heure, dans un environnement très réglementé, devait continuer en tout cas à être des lieux où devait émerger en tout cas des solutions expérimentales liées à la démarche de AIDE, donc démarche de santé communautaire. Des lieux où on peut expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles actions. Dépistage communautaire en va être un exemple. Mais voilà, c'était d'utiliser en tout cas ce type d'action pour faire émerger de nouvelles solutions expérimentales pour améliorer l'accès à la santé, l'accès aux soins des consommateurs de produits. Alors on est sur, dans les CARUD, ils ont une mission qui est sur l'accès aux soins. Donc on travaille en partenariat avec des équipes soignantes, soit in situ, soit en partenariat avec des structures de soins extérieurs. L'objectif étant de faire des CARUD des lieux avancés de l'accès aux soins. Et au-delà, pour les personnels infirmiers qui sont dans les CARUD, c'est au-delà de faire de la bobologie, c'est d'avoir un discours aussi, des échanges avec la personne autour de comment on prend en compte sa santé. On n'est pas juste là pour mettre un pansement là où ça fait mal, mais bien pour faire aussi un lien avec d'autres structures de soins. Et sur la France, on porte à peu près environ 30 CARUD. Alors, dépistage rapide du VIH non médicalisé. On a mené une étude, NRS comme thèse, qui s'est déroulée sur quatre sites en France, quatre villes. Il y avait Bordeaux, Lille, Montpellier et Paris, dont l'objectif était d'évaluer la faisabilité et l'acceptabilité d'un dépistage communautaire. Alors, ces deux termes-là sont importants, et pour compléter ce que disait Pascal Melun tout à l'heure sur l'acceptabilité, c'est l'acceptabilité pour les personnes, pour le public cible, mais aussi pour les intervenants. Et la faisabilité, c'est, est-ce que, c'était l'objet de l'étude, c'était est-ce qu'on allait être capable, nous, en tant qu'acteurs non médicaux, de pouvoir faire aussi, de rentrer dans cette pratique-là, de faire du test, d'engager en tout cas tout un processus autour, donc, que je vais décrire plus tard. Donc l'idée, c'était de proposer un dépistage du VIH alternatif pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Je ne dis pas gay volontairement, parce que ça, y a des hommes qui ont des pratiques homosexuelles qui ne se définissent pas en tant que gay. Donc c'est pour ça qu'on parle de HSH. Donc l'idée, c'était effectivement de faciliter l'accès au dépistage du VIH en intégrant le dépistage dans une stratégie globale de réduction des risques. L'idée, ce n'était pas de faire un CDAG bis, mais bien intégrer ce dépistage rapide comme un outil supplémentaire, un outil de réduction des risques parmi d'autres qui existent. Alors, rapidement, quelques résultats, mais vraiment très succincts. Donc, il y a eu presque 600 personnes qui sont venues nous voir à travers les quatre sites. Il y a eu 672 dépistages et donc 10% de participation répétée, donc des gens qui sont venus plusieurs fois effectuer un test. Pour aide, il y a eu 60 intervenants de formés, 3%, une prévalence de 3% à l'issue de l'étude, et tous les résultats positifs ont été confirmés par la suite. Donc c'est aussi par rapport à la fiabilité aussi des tests. Et qu'il y a eu un fort taux de satisfaction à la fois des personnes qui ont été testées et à la fois aussi des intervenants sur le rendu. Alors, question qu'on peut se poser, c'est effectivement pourquoi une offre de dépistage communautaire ? Déjà, ce que ça répondait, il y avait une forte demande du public, et notamment des ACHS, sur le fait que quand ils vont, on disait, mais sentiment d'être jugé quand on va dans un CDAG, quand on fait plusieurs fois les tests, on n'est pas forcément bien reçu, on n'ose pas du coup forcément y retourner si dans un mois on va y retourner 2 à 3 fois. C'est pas des lieux où on peut parler de nos pratiques aussi, c'est juste un test et puis pas forcément bien reçu. Donc il y avait ces besoins qui étaient exprimés aussi, et aussi une forte motivation des intervenants qui accueillent ces publics-là dans les délégations et qui du coup sont sensibles aussi à ce qu'on nous renvoyait les personnes. Et puis ils disaient que effectivement ça pourrait être un objectif, une nouvelle façon de faire, un nouvel outil qu'on pourrait utiliser. Il y avait aussi un besoin de santé publique, alors sur les aspects individuels et collectifs. Individuel, si on se sait séropositif plus tôt, ça peut permettre un accès au traitement plus tôt, qui peut aussi améliorer aussi la qualité de vie plus tard. Sur le champ collectif, c'est aussi limiter la transmission et limiter l'incidence du VIH. Et diminuer, on parlait de diminuer la charge virale communautaire. Donc voilà, donc il y avait un certain nombre de raisons qui nous ont poussé à s'engager là-dessus. Alors, le lien avec les consommateurs de produits, c'est-à-dire, HSH, effectivement, prise de risque, prévalence supérieure. Consommateurs de produits, on voit qu'il y a un faible nombre de découvertes de séropositivité et nouvelles contaminations depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui pourrait justifier de développer ça dans les cas rudes ? Si on regarde bien, on remarque que le taux d'incidence des usagers de drogue par voie intraveineuse est 20 fois supérieur public hétérosexuel. Donc il y a une, une incidence qui est extrêmement élevée, qu'on constate qu'il y a un retard au diagnostic qui est opéré quand les gens sont dépistés, mais on constate que c'est souvent de manière très tardive, donc ce qui complique les choses après pour une prise en charge et sur la réussite en tout cas des traitements. Et des difficultés aussi d'accès au dépistage pour les personnes qui ont un système veineux abîmé. Bah, c'est pas évident d'aller se faire dépister, d'aller se faire où les personnes ont du mal à trouver la veine, où ils se font charcuter plusieurs fois, piquer plusieurs fois, c'est pas évident. Donc du coup, voilà, pas un accès en tout cas difficile. Donc il y a vraiment nécessité et intérêt de proposer en tout cas des dépistages aussi auprès de ce public-là. Alors, la question qu'on s'était posée, c'est mais alors, du coup, si on veut démédicaliser le dépistage, c'est comment on fait ? On avait identifié cinq points clés. Alors, déjà, c'était choisir une technique fiable et simple. Alors, voilà, y a une utilisation du test rapide, c'est effectivement simple, ça nécessite quand même un minimum de formation, mais en tout cas, l'utilisation est relativement simple. On devait passer par une formation des intervenants. Identifier les prérequis des intervenants et les former à la fois sur le technique, mais aussi sur les entretiens motivationnels, sur les entretiens pré- et post-test. Et voilà, donc à AIDE, il y a une formation initiale pour l'ensemble des militants de AIDE et il y a une formation spécifique pour le dépistage qui a été mis en place de 4 jours. Troisième point clé, c'était de mettre en place un protocole d'intervention standardisé, c'est-à-dire le même partout. Avec les mêmes étapes, et pour que ce soit plus simple. Je reviendrai à la diapo d'après sur ce protocole d'intervention standardisé. Quatrième point clé, c'était s'inscrire dans un réseau partenarial. L'idée, n'avait pas de sens de faire ça dans notre coin tout seul, mais c'est bien de s'inscrire dans un réseau avec d'autres acteurs de soins, d'autres acteurs de dépistage, et de bien voir cette solution, cette opportunité de faire du dépistage rapide, de proposer en tout cas ce nouvel outil de réduction des risques, comme une mesure complémentaire à d'autres offres de dépistage qui existent par ailleurs. Et puis, dernier point clé, c'était appliquer une démarche qualité. C'est-à-dire que si on veut mesurer l'évaluation de tout ça, c'était mettre en place un guide de bonne pratique, assurer une assurance, assurer une traçabilité, faire ça dans vraiment une démarche qualité. Et si on voulait faire ça, on était obligé de passer par une recherche biomédicale, ce qu'on ne pouvait pas en 2008 proposer du test rapide sans passer, en tout cas, par une recherche biomédicale. Alors, sur le protocole d'intervention standardisé, il y avait cinq étapes. Il faut bien comprendre que c'est pas quand les personnes viennent à AIDE faire un test rapide, c'est pas ils viennent, on fait un test et ils repartent. Ça dure en moyenne 2 heures. Donc c'est comment on englobe ça dans une stratégie globale de réduction des risques, comment on englobe ça avec des entretiens pré-test et post-test, et comment on profite de ce temps-là pour aborder les questions justement de pratique sexuelle, relations à dépistage, etc. Donc, quand une personne vient, il y a plusieurs étapes. Qu'est-ce qui s'est passé pour la personne avant de pousser la porte ? C'est quoi ses pratiques ? C'est quoi ses relations à dépistage ? Un certain nombre de choses qui doivent être discutées. Alors, dans ici maintenant, c'est quoi ça demande ? La personne qui vient, qui a poussé la porte de AIDE, c'est quoi ? Est-ce qu'elle veut effectivement faire un test rapide ? Est-ce qu'elle veut simplement discuter par rapport à ses pratiques ? Ou voilà, c'est vraiment identifier précisément la demande de la personne pour ensuite construire une réponse avec elle. Proposer le test et faire le test si c'était la demande de la personne, et aussi annoncer le résultat. Mais annoncer le résultat, ça suppose aussi d'anticiper un résultat éventuellement positif. Une fois qu'on a ces résultats, mais qu'est-ce qu'on fait ? Que ce soit négatif ou positif ? Est-ce que ça va changer des choses ? Est-ce que comment personne peut adapter aussi ses pratiques par rapport à l'annonce de ce résultat-là ? L'idée, c'est d'aborder ces choses-là dans un entretien qui se déroule après ce test-là. Donc c'est vraiment cinq étapes qui sont primordiales et utilisées, mises en place à chaque fois. Alors, les résultats à la fois de l'étude, bien sûr, et puis de comment on le développe dans l'ensemble des actions d'EUAID actuellement, c'est que vraiment les résultats confortent l'idée que le dépistage non médicalisé était vraiment un outil complémentaire efficace pour le dépistage, mais pour la prise en charge précoce. Et l'intérêt de ça, c'est de pouvoir aussi dépister des gens le plus rapidement possible après une contamination. C'est la période où ils sont plus contaminants et de les mettre, d'initier en tout cas un traitement le plus tôt possible. Et donc, que ça facilite l'accès à une connaissance renouvelée de son statut sérologique, notamment pour les populations les plus exposées, et qu'on devait vraiment permettre aux personnes de, si c'était vers faire 5, 6, 7, 8 tests dans un mois, c'était de leur laisser aussi cette possibilité et de faire ça sans jugement. Alors, en termes de perspective, c'est alors, j'ai mis cette photo-là parce que c'était intéressant, c'était la conférence de Vienne, et la première personne qui s'est fait dépister hors recherche biomédicale, alors avant même que l'arrêté soit officiellement paru, c'était Rosine Bachot. Donc là, on était vraiment hors tout cadre légal. Mais bon, c'était un peu... Donc, en termes de perspective, c'était qu'on voilà, on a contribué à changer la loi, qu'il y a eu l'arrêté du 9 novembre 2010 qui a autorisé... voilà, qui a donné une existence légale au dépistage, au test rapide, et que pour nous c'était vraiment effectivement une conquête d'un nouveau droit à la santé dans tout ce que ça représente. Et en
quelques minutes,
très lisible, ouais, c'est mon dernier diapo. Vraiment en termes de perspective aussi, c'est que c'est vraiment de nouvelles voies aussi pour développer des actions communautaires, notamment dans les cas rudes. Parce que la démédicalisation de certains actes, bah, ça permet de dépasser les frontières de représentation dans ce que, alors, à la fois des intervenants et à la fois des personnes rencontrées dans les cas rudes, dans ce qui relève du non médical et du médical, voilà, ce qui relève de la blouse blanche et de ceux qui ne portent pas de blouse blanche. L'idée, c'est d'éviter de reproduire effectivement un modèle de prise en charge médicale qui serait disponible par ailleurs. L'idée, c'est pas de faire des structures de santé bis, mais c'est de vraiment développer des modèles complémentaires, des structures en tout cas complémentaires. Avec les personnes, et notamment les plus précarisées, les plus exposées, c'était saisir l'opportunité de créer ensemble une autre manière de créer de la santé. Et puis, au niveau des carottes, c'était élargir, enfin, en tout cas en termes de perspective, c'est vraiment élargir l'activité des carrudes à la santé sexuelle. Ok, on est là pour accompagner les consommateurs de produits dans la réduction des risques par rapport à leur consommation de produits psychoactifs, mais avec cette opportunité de faire aussi du dépistage rapide, c'est d'ouvrir l'activité des carrudes au champ de la santé sexuelle. Les consommateurs ont aussi une vie sexuelle, ils sont pas là pour... ne consomme pas uniquement des produits. Donc, voilà, donc c'est intéressant dans la pratique des acteurs de basculer aussi sur ce champ-là. Et puis c'est aussi une porte d'entrée pour les autres TROD, effectivement, pour les tests qui n'ont pas encore la nomenclature TROD et qui sont pas, on peut pas utiliser dans un cadre encore non médicalisé. Il y a les TROD qui existent qui sont utilisés dans un cadre médicalisé, mais dans une version non médicalisée, pour l'instant, c'est pas encore possible. On espère qu'à moyen terme, on devrait voir arriver effectivement des tests VHC, VHB, en tout cas dans un contexte non médicalisé. Donc voilà, succinctement l'expérience de aide, et puis voir un peu les perspectives que ça nous a ouvert, en tout cas à nous. Merci.
Merci. Merci Anthony. Alors, juste pour, avec plein de tendresse, hein, je pense que si aujourd'hui les biologistes sont attachés à ce que le dépistage reste dans les mains des médecins, je pense qu'on l'est tout autant. J'ai arrêté de compter à 25 fois où tu as dit dépistage. Mm. C'est bien la preuve que dans nos têtes, à nous aussi, on fait du dépistage. Et je pense qu'on trouvera notre place dans les TROD que si on arrive à plus prononcer le mot dépistage et on fait autre chose. Mais j'entends bien et je suis pareil, c'est extrêmement difficile.
Oui, après, tout dépend de ce qu'on met derrière aussi.
Enfin, on est bien d'accord. Voilà. Mais en tout cas, il y aura le corps médical et la loi viendra nous argumenter de la confusion si on continue. Il faut qu'on invente un autre vocabulaire. Ou des dépistages de pratique, ou c'est où on met test rapide, mais faut qu'on fasse gaffe, à mon avis, à ne pas utiliser le mot dépistage, parce que là, on va se faire mordre.
Oui, ça discute.
Des questions dans la salle hein?
Bonjour, je suis Thomas Tissouchet, je suis coordinateur au CARU des Oxapa Gaïa à Paris. Et en fait, je voulais savoir quelle pouvait être la place des CDAG avec ces nouveaux dépistages, et, parce que c'est vrai que beaucoup des populations à risque de contamination par le VHC et le VIH notamment ne vont pas dans les CDAG. Mais après, est-ce qu'il y a des CDAG qui se sont manifestés par rapport à ça, qui veulent apporter une contribution, qui voudraient faire du test rapide aussi de leur côté? Enfin, est-ce qu'il y a un mouvement de ce côté-là, ou est-ce que c'est la même inertie que pour aller au contact des populations à risque? Enfin, voilà.
Moi, je vais répondre de ce que j'en connais. Aujourd'hui, en Champagne-Ardenne, il y a eu un appel d'offres de l'ARS à tous les CDAG de Champagne-Ardenne pour savoir s'ils voulaient se lancer dans les trottes VIH. Donc, et particulièrement pour les dépistages hors les murs. Donc il y a un certain nombre de CDAG qui ont dit, nous, ça nous intéresse d'aller hors les murs, et pour des patients particulièrement en situation difficile, on a envie d'avoir la réponse dans l'immédiat. Gérald, tu voulais répondre ?
Je voulais répondre parce qu'en fait, c'est le thème de mon intervention tout à l'heure, quoi. Donc, en fait, on va pouvoir en rediscuter. Voilà, quoi. Par contre, je voulais juste revenir, si je peux prendre la parole, de 30 secondes, par rapport au mot dépistage. C'est qu'en fait, dans le cas des carudes, on doit mettre aussi en place des conventions avec les CDAG dans le cadre d'action dépistage. Donc c'est pour ça que, à partir du moment où on bosse dans un carude, le mot dépistage fait partie de notre vocabulaire courant, on va dire. Donc on est obligé de le dire, Pascal.
Je sais pas qu'il faut pas dire, je veux juste que derrière le mot dépistage, on met tous la même chose, c'est que le mot, parce que je pourrais entendre que le CDAG va dire qu'ils font le boulot. D'accord avec le CDAG, ce
qu'ils
font eux, et ce que nous on va faire à ce moment-là dans un
carré,
par exemple.
C'est vraiment être au clair avec la complémentarité des choses, quoi. C'est voilà, ce que fait un CDAG et le développement des tests rapides, c'est pas pour dire que les CDAG c'est nul. Ils ont un intérêt pour un certain public, mais ne répondent pas, n'arrivent pas à toucher d'autres publics. Voilà, c'est un constat, et à partir de là, c'est pas pour supprimer les CDAG, et c'est pas pour faire des locaux de aide des CDAG bis. C'est voilà, on est dans une complémentarité d'une offre de dépistage.
Oui, mais dans les CDAG à Paris, la majorité, si tu y vas et que tu demandes à te faire dépister sur une hépatite, tu te fais foutre à la porte. Hein, donc il faut pas le dire.
Un mot sur la distinction entre dépistage, TROD, etc. Au sens légal du terme, je parle bien de la loi en France, un test de dépistage d'une maladie infectieuse, c'est deux tests. Le TROD n'en représente qu'un, c'est la phase 1. C'est pourquoi le TROD n'est pas, au sens légal du terme, un test de dépistage. Il doit être confirmé par un second test.
Mais il y a une réflexion d'ailleurs qui est menée sur le VIH, à savoir si aujourd'hui le niveau d'excellence est tel que si un test n'est pas suffisant pour aller par faire une deuxième sérologie, mais aller directement aux techniques virales de PCR. Et je voulais juste attirer votre attention sur les TROD. C'est probablement, je fais le lien avec l'atelier précédent sur la francophonie, c'est probablement un outil qui aura un sens complètement différent dans les pays en voie de développement et en Afrique. Vous imaginez bien que des femmes enceintes qui pourrait être facilement dépisté grâce. Enfin, dépisté. On y revient. Et tiens, je fais tilt. Tester, voilà. Tester rapidement, hors qu'elles sont à distance des laboratoires, etc., pour limiter la propagation des épidémies. Je pense que c'est un débat qui est complètement différent du nôtre, mais en tout cas, on a peut-être à le pousser aussi.
Oui. Mais quand les tests, c'est pour ça que ça s'appelle TROD aussi, hein, c'est les tests d'orientation et de diagnostic. C'est quand il y a un test qui est positif, après il y a une confirmation qui doit être faite. Hein, le test de confirmation, c'est ils sont confirmés par un Western Blot. Hein.
On va enchaîner.